Avoir raison avec Suzanne Sontag.
Un écrivain est quelqu'un qui se lève le matin, qui lit du Stendhal, après il va au piano et il joue de Beethoven, après ça il déjeune avec d'autres écrivains, après ça il va à une galerie, il voit des peintures, après ça il va à un concert, après ça et il voyage beaucoup. C'est-à-dire qu'un écrivain c'est quelqu'un qui s'intéresse dans tous les arts, dans la politique, bien entendu la psychologie des gens. C'est quelqu'un passionné partout.
En 1966, Suzanne Sontag a 33 ans. Elle est déjà celle dont l'image reste dans les mémoires. Cette intellectuelle new-yorkaise, indépendante, libérée des institutions, celle à qui l'on doit des notes sur le Kemp et un premier roman, d'une pertinence folle face au bouleversement de son époque, capable d'écrire sur tout et de saisir l'air du temps, sexuel, politique et artistique, capable d'embrasser l'époque ou de s'en révolter. Le Vietnam, Sarajevo, la ségrégation sexuelle, la maladie seront ses combats, mais le premier, et pas des moindres, ce sera l'interprétation. En 1966, Suzanne Sontag en fait le sujet comme une mise en abîme de son propre destin d'écrivain, de son deuxième essai. Contre l'interprétation ou comment revenir aux œuvres elles-mêmes et refuser de leur imposer un sens. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Tiphaine Samoyo. Bonjour Tiphaine Samoyo.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes essayiste, traductrice, critique littéraire, professeure de littérature comparée à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous avez écrit une biographie de Roland Barthes au Seuil en 2015. C'est important parce que Suzanne Sontag adorait Roland Barthes. On pourra en reparler tout à l'heure. Et vous avez travaillé et consacré plusieurs articles à Suzanne Sontag. Comment prendre, c'est ma première question, comment prendre et comprendre cet essai de Suzanne Sontag contre l'interprétation? Qu'est-ce que ça veut dire d'être contre l'interprétation?
Alors déjà, il faut entendre le caractère provocateur donc de l'énoncé qui sert de titre et qui est aussi un peu la marque de fabrique de Suzanne Sontag. Elle veut frapper fort, quitte à revenir un petit peu dans le corps du texte sur le véritable combat qu'elle est en train de mener. Donc contre l'interprétation, c'est refuser que l'on explique les textes, mais vraiment considérer la littérature comme un art ou l'art comme de l'art, c'est-à-dire penser ce qu'il fait ou ce qu'il nous fait et non pas ce qu'il dit. Donc elle s'emporte contre les grands systèmes d'explication et en particulier ceux qui prévalent à son époque, c'est-à-dire le système d'interprétation marxiste et le système d'interprétation psychanalytique. Donc c'est surtout contre ces deux grands systèmes explicatifs qu'elle va s'emporter, qui cherchent à trouver un sens au-delà de ce que le texte fait ou de ce que le texte en apparence dit. Hein. Donc c'est contre le sens et pour la lettre. Hein. C'est-à-dire que la matière de la littérature, c'est la lettre, comme la matière de la peinture, c'est la peinture.
Mais quelle différence faire entre l'interprétation qui, on va dire, applique un sens, projette une interprétation, comme le marxisme ou le freudisme, et l'interprétation qui résulte d'une lecture seule, chez soi, où en fait on trouve un sens à ce texte, qui est peut-être pas le sens du texte, ce qu'a voulu dire l'auteur ou le narrateur, mais du moins c'est une interprétation en tant que telle.
Oui, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher dès qu'on regarde une œuvre ou qu'on la lit, on ne peut pas s'empêcher d'y mettre
un sens
qui peut être son sens. Et d'ailleurs, elle revient un tout petit peu sur ce contre l'interprétation en disant qu'elle est contre les interprétations qu'elle appelle réactionnaires, c'est-à-dire celles qui veulent absolument trouver un sens qu'on va plaquer sur l'œuvre, et puis des interprétations éventuellement émancipatrices qui sont celles qu'on produit en effet pour soi. Mais ce texte, il a un contexte, hein. Il est publié en 1966. Alors, vous avez dit dans le chapeau qu'elle était une intellectuelle new-yorkaise, qu'elle était américaine, c'est tout à fait vrai, mais elle est aussi parisienne, elle est aussi marquée.
Francophile.
Elle habite beaucoup à Paris, elle est francophile, francophone, et on l'entend d'ailleurs dans les archives. Et voilà, c'est aussi contre une certaine manière d'expliquer les œuvres dans les institutions françaises qu'elle s'emporte. Et elle le fait avec Barthes, on y reviendra, avec d'autres à la même époque. Et donc, c'est aussi la mise en valeur, c'est une position qui aujourd'hui peut être mal comprise, parce que c'est une position qui est finalement très avant-gardiste, très formaliste. C'est-à-dire que elle est contre l'interprétation pour laisser l'œuvre être elle-même. Et donc, elle voit aussi dans le pop art, par exemple, ou même dans l'abstraction, des manières dont l'art a eu de résister à l'interprétation. Ce qu'on peut voir aussi avec le nouveau roman. Et d'ailleurs, son premier roman, Le Bienfaiteur, qui a été publié avant Contre l'interprétation, c'est un roman qui tient beaucoup du nouveau roman. Et donc, c'est essayer de mettre en évidence des surfaces contre du sens.
Et aujourd'hui, le sens serait quelque chose de profond, où on essaye d'exhumer quelque chose dans le texte, alors que la lecture ou l'approche des œuvres qu'elle promeut, Suzanne Sontag, serait de l'ordre de l'attention pure à la surface.
Oui, c'est ça. Mais c'est une position qui est défendue aussi par les artistes à cette époque. C'est une position avant-gardiste. C'est pas une position relativiste. Par exemple, on pourrait tenter de lire aujourd'hui ce texte en disant contre l'interprétation qu'on veut absolument nous asséner et pour toutes les interprétations que chacun d'entre nous pourrait donner aux choses. C'est pas du tout ça. Elle croit à la vérité de l'art.
Elle dit quand même que l'œuvre détient une vérité.
C'est ça. Mais cette vérité, elle est sensuelle. Et donc, c'est la phrase la plus citée de son essai, que l'art n'a rien à voir avec l'intellect, mais qu'il a à voir avec l'éveil des sens. Donc c'est une approche magique, anti-intellectuelle, un peu spiritualiste de l'art.
Et est-ce qu'on peut pas dire un petit peu réductrice aussi? Parce que opposer la sensibilité à l'intellect, l'idée au sens, j'entends sensualité, est-ce que c'est pas une dichotomie qui finalement réduit un petit peu à l'art dans une alternative, alors que souvent en fait c'est plutôt les deux qui se produisent? C'est-à-dire que quand j'ai une expérience face à une œuvre d'art, pour pouvoir parler de l'expérience que j'en ai, de la sensibilité qui s'y joue, j'ai forcément une intervention intellectuelle, réflexive, de l'ordre de l'idée.
Oui, alors j'ai du mal à croire qu'elle fasse cette dichotomie aussi fortement, parce que toute son œuvre, toute sa personne est cette conjonction de sensibilité et d'intellect qui la caractérise, et donc je ne pense pas qu'elle fasse vraiment cette dichotomie. Elle le fait pour des raisons, elle le fait en apparence pour des raisons polémiques, c'est-à-dire que parce qu'elle veut en finir avec un certain type d'interprétation, elle va partir en guerre de manière provocatrice. En réalité, comme elle le dit dans un autre entretien, elle dit « je suis ni pour ni contre l'interprétation, j'en fais un problème ». Et c'est voilà, donc ça peut paraître un tout petit peu réducteur, mais quand on comprend sur quel terrain ça se fait et finalement dans quel combat réel, on le saisit mieux.
Et pourquoi elle a voulu en faire un problème? Pourquoi elle a choisi ce sujet-là pour en faire un problème? Elle voulait. Est-ce que c'était une manière, en tant qu'écrivain, artiste elle-même, de problématiser quelque chose qu'elle faisait, qu'elle pratiquait, l'écriture, ou est-ce que c'est un choix arbitraire? Et je le pense pas vraiment, en fait.
Non, c'est se mettre du côté, de l'art, du côté des artistes, du côté de la sensation, du côté de l'effet. En effet, contre une certaine forme d'appropriation. Plus par les institutions, je dirais, ou même par la culture, parce qu'elle rentre en guerre aussi contre la culture.
Donc c'est un véritable geste politique.
Oui, c'est ça, qui fait de l'art un produit. Elle veut rendre à l'art et à la littérature toute sa force d'action sur l'être, sur le monde. Et voilà, donc c'est combatif. Mais il me semble pas que ça soit réducteur. Et en effet, elle le fait au nom primo d'une recherche artistique qu'elle mène elle-même, et secondo pour ne pas enfermer la critique non plus dans l'intellectualité ou l'institution. Pour elle, la critique, c'est aussi de l'art.
Et est-ce qu'elle a été entendue? Est-ce que ce livre a été entendu? Est-ce qu'il a été même? Est-ce qu'encore aujourd'hui on peut se référer à ce texte-là dans des études critiques, littéraires?
C'est un texte qui est très souvent repris, pas toujours bien compris parce que effectivement, il peut être lu comme exclusivement polémique. Donc il y a un certain nombre de critiques qui peuvent chercher à vouloir répondre en disant si on est pour l'interprétation. Moi je crois qu'elle n'est pas contre l'interprétation, elle est contre ce type d'interprétation que j'ai évoqué. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est un peu mal compris parce qu'on peut le mettre au service d'un certain relativisme critique qui domine dans les institutions.
Donc relativisme critique, c'est-à-dire tout le monde peut avoir un avis sur une œuvre, chacun le lit, dit l'œuvre comme elle l'entend.
C'est aussi que quelle que soit l'approche, quels que soient les outils critiques auxquels on soumet une œuvre ou tout le monde a le droit de tout faire avec les œuvres. C'est une position qui prévaut aujourd'hui parce qu'on est en absence de ces grands systèmes interprétatifs. L'analyse marxiste, elle est complètement anachronique aujourd'hui, donc on ne va pas partir en guerre contre elle.
Psychologique aussi, voilà. On s'y réfère.
Alors, ce qui a pris un peu la place, c'est quelque chose que je pense qu'elle cautionnerait pas, qui est une approche éthique de l'art ou de la littérature, que je pense qu'elle cautionnerait pas non plus, parce que c'est aussi un système interprétatif de penser qu'on va trouver des règles morales dans la littérature ou des consolations.
Alors, à défaut d'un grand système interprétatif qui forcément en fait va plaquer une manière de penser, des principes, que ce soit le marxisme, la psychologie ou l'éthique, comme vous venez de le dire, Tiphaine Samoyo. Que proposait Suzanne Sontag dans ce texte? Est-ce qu'elle donne des indices, peut-être, de ce que serait une bonne approche d'une œuvre où on serait en contact direct avec elle?
Elle donne pas de programme, bien sûr. Simplement, elle donne toute sa place au récepteur de l'œuvre, au lecteur. Et sans que toutes les interprétations se valent, ce qu'elle veut mettre en évidence, c'est le choc. Et que c'est à partir de ce choc qu'on va produire de l'analyse. Et qu'il ne faut pas l'oublier, ce choc-là. Ce que l'art me fait, ce que la littérature me fait, c'est à partir de là que on doit construire une pensée. Et là, on pourrait croire que c'est subjectiviste. Alors oui, c'est un peu subjectiviste, mais ce subjectivisme, l'art permet qu'il puisse aussi s'adresser à tous, qu'il soit partagé, qu'il forme une communauté. Donc c'est ça qui serait sa politique de la lecture, on pourrait dire.
Je pense que, évidemment, j'utilise les événements dans ma vie, dans mes livres, mais c'est un processus très lent. Je veux dire que j'ai l'impression que je dois attendre très longtemps avant que je peux utiliser quelque chose, que ça, cette chose doit être digérée et devenir, entrer dans mes veines, parce que c'est pas une chose de tête. C'est pas une chose de tête. Par exemple, j'ai passé 3 ans extraordinaires où j'étais pour la plupart du temps dans une ville assiégée, la ville de Sarajevo. Et c'est déjà maintenant dans mon passé. Bon, c'était entre 93 et 96. Et j'ai pas encore écrit quelque chose sur ça. Et peut-être si Dieu m'accorde encore un peu de vie, je peux attendre encore 10 ans avant d'écrire un roman qui s'appelle La Siège. J'ai vraiment envie de le faire. Oui. Mais ça doit descendre, jusque ça arrive au vrai stade de l'écriture.
C'était la voix de Suzanne Sontag dans une archive de France Culture, à voix nue avec Chantal Thomas. Entretien enregistré en 2000 et diffusé tout début 2001. Vous avez parlé, Tiphaine Samoyo, avec cet essai contre l'interprétation, d'une politique de la lecture de Suzanne Sontag. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une politique de l'écriture à partir de cet essai? Comment ces thèses défendues dans Contre l'interprétation ont-ils modifié peut-être sa manière d'écrire, peut-être d'écrire des œuvres lisibles, en tout cas, qui produisent des chocs chez le lecteur?
On peut l'inférer. Je ne crois pas que Contre l'interprétation ait influé sur sa manière d'écrire. Je pense que ce qui caractérise Suzanne Sontag, c'est qu'elle essaye en permanence. Elle essaye dans sa vie, elle essaye dans l'écriture. Donc elle peut passer comme ça de l'essai polémique au roman, du roman au journal. Elle est constamment dans une recherche. Et on l'a dit hier à propos de sa sexualité, c'est pareil. Donc c'est quelqu'un qui essaye. Elle se vit comme écrivain, donc même comme critique, elle se présente comme écrivain, c'est ce qu'elle fait dans ce texte contre l'interprétation, mais elle le fait, elle l'essaye dans ses romans, elle l'essaie, voilà. Là, ce qui m'a intéressé dans l'archive qu'on vient d'entendre, c'est cette lenteur avec laquelle on se sert de soi, ou on part de soi pour écrire. Et évidemment, on ne le fait pas de la même façon lorsqu'on adresse un texte critique ou sur quelque chose, et quand on écrit un roman. Et donc elle a pas écrit sur Sarajevo, en effet, sur son expérience à Sarajevo, mais son livre, son dernier roman qui s'appelle En Amérique, qui est paru en 1999 et qui est justement dédié à ses amis de Sarajevo, l'évoque de manière indirecte. Il y a beaucoup d'éléments qu'on trouve dans ses romans qui sont repris d'ailleurs. Maintenant, on a la possibilité, grâce à la publication grâce à son fils de ses journaux, donc ses publications posthumes, de voir les liens justement entre cette écriture du jour, cette notation quotidienne dans son journal, et puis ses œuvres romanesques. C'est pour ça que pour moi, je dirais pas que elle est une plus grande critique que romancière. On n'a pas à
hiérarchiser.
Ce serait un peu contradictoire avec cette œuvre qui est très très protéiforme, multiforme, qui cherche en permanence quelque chose.
Est-ce que malgré tout on peut trouver un lien entre ces différentes formes d'écriture chez Sontag et peut-être définir une forme de style propre à Suzanne Sontag ? Est-ce qu'on peut parler d'un style Suzanne Sontag ?
C'est une écriture de déracinée, donc c'est quelqu'un qui est perpétuellement en exil. Bon, elle a des origines donc européennes, polonaises, juives polonaises. Elle le raconte d'ailleurs dans ce livre En Amérique, qui traite de cet exil. Ensuite, elle a cet exil à Paris. Elle est jamais à sa place nulle part. Et donc moi, je caractériserais ça comme un style en effet déraciné, donc qui est difficile à caractériser. C'est pour ça que souvent on dit ces romans sont pas intéressants. Enfin, je crois pas qu'on puisse vraiment dire ça. On verra bien. Il y a forcément des gens qui vont s'y intéresser un jour. Je les trouve attachants. En tout cas, en Amérique, les premiers romans c'est des tentatives, mais en France on a quand même souvent tendance à ne pas vouloir que les gens soient dans plein de places différentes. Et on veut absolument catégoriser, dire ce qu'elle est. Donc on va dire qu'elle est mauvaise romancière parce qu'on veut absolument la reconnaître comme grande critique ou comme grande essayiste. Mais elle est autant essayiste dans ses romans ou dans son journal, me semble-t-il, que dans ses essais les plus célèbres, ceux sur la photographie ou sur la maladie.
Est-ce qu'elle a problématisé cette question de l'écriture, du processus? On a entendu dans cette archive comment elle procédait pour écrire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une sorte de digestion des événements pour que ça remonte à la conscience, à la surface de l'écriture. Mais est-ce qu'elle a problématisé, écrit sur la question de l'écriture? Elle vouait un culte à Roland Barthes. On va en reparler. On peut en parler dès maintenant, Tiphaine Samoyo. Mais est-ce qu'elle a fait comme Roland Barthes a fait, à savoir problématiser l'activité même qu'elle faisait, l'écriture?
Mais elle l'a problématisé justement dans un texte sur Barthes qui s'appelle L'écriture même, et qui est un texte où elle parle autant d'elle que de Barthes. C'est-à-dire qu'il y a une telle proximité entre ces deux figures, une telle influence aussi de l'une sur l'autre, que même jusque dans les sujets de ses essais, jusque dans la manière de faire, dans le rapport entre intellect et sensibilité, dans tout, dans l'attrait pour la contre-culture, au moment où elle écrit sur le Kemp, Barthes écrit sur le catch, elle écrit sur la photographie comme lui, ils sont marqués tous les deux par la maladie, enfin, ils sont aussi dans un engagement qui est à l'intérieur de l'écriture et pas tout à fait extérieur à elle. Donc il y a des proximités infinies. Donc ce texte qui s'appelle L'écriture même, et qui montre que il y a jamais de dehors à l'écriture, que tout est dans l'écriture, que toute la lutte c'est une lutte pour ce qui est soustrait aux normes du pouvoir, donc l'écriture en tant que outil de subversion, c'est Barthes, mais c'est sa définition aussi de l'écriture. À côté de cette question du pouvoir et de la subversion, il y a l'autre versant, qui est le versant plaisir, le versant charnel, le versant sensuel, qu'on avait déjà à l'œuvre dans Contre l'interprétation, et qui est aussi dans ce texte l'écriture même, l'écriture comme plaisir, comme éveil des sens.
À partir des années 60, c'était Roland Barthes que j'admirais le plus et que je considère d'ailleurs un grand écrivain français. Pour moi, c'est ni le côté universitaire, sémiologue, toutes les étiquettes de ce genre qui captent vraiment l'essence de Barthes. Pour moi, Barthes, c'est un grand écrivain, un écrivain dans la ligne, disons, de Valéry. Barthes était sûrement un grand modèle et c'était aussi, bien entendu, un grand plaisir de connaître la personne qui était tellement courtois et charmant. Il avait une grande envie de séduire dans tous les sens. Et je me souviens qu'il avait une peau très douce, de se serrer la main avec lui. Ça faisait partie de son côté séducteur, même avec les femmes auxquelles il n'était pas attiré à un sens profond de point de vue physique, mais quand même il voulait séduire tout le monde. Alors, quand il vous prenait la main, il gardait la main un peu plus longtemps que nécessaire. Et j'ai toujours un souvenir de la douceur de sa peau.
En 1978, Susanne Sontag fait cette déclaration, on peut dire, d'amour à Roland Barthes. C'était sur France Culture, dans l'émission L'Invité du jour. Elle parle de ses mains d'une manière, elle parle de douceur, on sent effectivement qu'on retrouve une sorte d'admiration intellectuelle pour Roland Barthes, et puis un attachement physique, corporel à Barthes quand elle parle de ses mains.
Oui, c'est très fréquent que lorsque des personnes qui ont connu Barthes parlent de lui, parlent de quelque chose de physique, de sensuel. C'était, je pense, une partie de son personnage. D'ailleurs, dans la première archive, lorsqu'elle dit un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit sur Stendhal le matin,
qui va jouer du Beethoven,
qui joue du Beethoven ensuite et qui va déjeuner avec des amis, ensuite va voir une exposition. C'est exactement la journée type de Barthes, qui au moment où il est mort, justement, écrivait un texte sur Stendhal et avait rendez-vous pour déjeuner, etc., etc. Donc c'est vraiment typique. C'est un personnage d'amateur, comme Barthes se définissait lui-même. Mais au-delà de ça, je dirais que elle a eu raison. Alors pour le coup, en identifiant très très tôt Barthes comme un écrivain dans tout ce qu'il faisait. Et justement, c'est une manière de déjouer les catégories toutes faites. Est-ce qu'il est essayiste? Est-ce qu'il est
sémiologue? Elle refuse les étiquettes.
Elle refuse les étiquettes comme elle les refuse pour elle-même. Et à chaque fois qu'elle parle de lui, en fait, elle parle d'elle-même. Elle est exactement, moi je la définirais, d'ailleurs elle a le même impact, je dirais, aux États-Unis que Barthes en France. Elle est moins connue en France, je dirais, ou pas tout à fait connue à sa juste mesure, malgré la réédition de ses œuvres chez Christian Bourgois et d'autres éditeurs. Elle n'est pas connue à sa juste place parce que d'une certaine manière, la place est prise par Barthes. Mais il y a la place pour tout le monde, je pense qu'il y a la place aussi pour Susanne Sontag, mais les points de contact sont très très nombreux. Et donc là où elle a eu raison, c'est qu'elle elle a reconnu, elle a dit même que ce serait une des œuvres du XXe siècle qui a été le plus promise à durer. Et peu de gens auraient pu dire ça en 80. Je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait conscient de ça, mais en 80, peu de gens étaient conscients de ça. Et puis, elle le définissait comme écrivain. Et elle prenait au sérieux aussi, par exemple, sa volonté à la fin d'écrire un roman, alors que personne n'a pris ça au sérieux, tout comme on ne prend pas au sérieux les romans de Susanne Sontag, parce qu'on a besoin... Ce sont des intellectuels, on les place dans le rang des intellectuels, des critiques de la culture, ce qu'ils sont, mais ils sont dans tout ce qu'ils font des écrivains, c'est-à-dire des personnes dont le rapport au monde est immédiat, sensuel, même dans leurs critiques. Hein. On voit bien Barthes dans Mythologie, par exemple. Si les mythologies, ça reste des textes qu'on lit, c'est parce qu'il aime aussi ce dont il parle, c'est-à-dire qu'à la fois il le critique, mais il a un goût, une attirance. Les écrivains, ils ont des yeux, ils ont des sens perpétuellement ouverts.
C'est ça qu'entendait Susanne Sontag dans Contre l'interprétation, ce retour à l'œuvre par la sensibilité, c'est-à-dire par les sens.
Oui, par tous les sens. Absolument.
Dans son livre, l'écriture même à propos de Barthes, où Tiphaine Samoyo, vous nous dites que Suzanne Sontag, en fait, parlait de Barthes, mais parlait d'elle-même, elle, on va dire, décortique tout ce qui fait, toutes les caractéristiques du style de Barthes. Alors, elle parle de l'importance du journal, de l'amour du court, du détail, du discontinu, l'opposition à ce qui est linéaire, l'amour du fragment, de la liste, les signes, enfin l'inutile qui laisse la place justement à l'infini, possibilité d'interprétation des signes. Alors, il faudrait pas que j'emploie ce terme d'interprétation, mais du moins de signes, de sémiologie, on dirait. Elle parle aussi de l'importance de la fuite. C'est très intéressant parce que dans ses lignes sur Barthes, elle dit qu'il va vider le contenu de certaines œuvres pour s'en tenir à la forme pure. Est-ce que ça aussi, c'est une manière de comprendre cette approche de l'œuvre comme une approche sensible? C'est-à-dire non pas par le sens, non pas forcément par le contenu, par les mots, mais vraiment par ce qui forme le texte et l'informe.
Oui, c'est cette critique de surface hein, dont on disait qu'elle était celle qu'elle défendait contre une critique des profondeurs, contre une critique du sens. Mais c'est aussi ce qu'il faut reconnaître à Barthes, c'est-à-dire qu'il a introduit dans la critique de très très grands pouvoirs donnés au lecteur. Le fameux texte, lui aussi très provocateur dans son titre, La mort de l'auteur, c'est moins la disparition de l'auteur que la mise en évidence et l'apparition, la naissance du lecteur. Et donc, libre au lecteur de reconstituer comme il veut l'œuvre, de s'attarder à tel ou tel détail. Hein, c'est ainsi que l'analyse rendra compte du choc opéré par l'œuvre. L'autre élément, c'est la question du fragment et de la notation. Et alors, quand elle écrit ça, elle connaît pas encore l'énorme massif posthume qui va constituer une grande partie de l'œuvre de Barthes. Mais nous non plus, on ne connaît pas le journal de Suzanne Sontag, hein, que son fils a décidé de publier, qui n'a pas forcément été écrit pour être publié. Mais ça, on sait jamais. Quand on est écrivain, on écrit tout pour, d'une certaine manière...
Ce soit peut-être lisible un jour.
Oui, bien sûr. Donc tout ça, ça c'est pas une question importante. Mais ce journal, il est une pratique quotidienne. Donc Barthes n'avait pas cette pratique, mais il a une pratique quotidienne de la notation. Et donc là aussi, ils se rejoignent dans la manière dont les publications posthumes transforment l'œuvre, donc constituent une manière rétrospective de lire leurs autres textes.
Est-ce que la rencontre entre Barthes et Sontag a eu lieu de manière, en fait, est-ce que les affinités, les ressemblances entre eux, elle est complètement consciente, assumée, c'est-à-dire que Sontag vénère Barthes de manière consciente, ou est-ce que toutes les similitudes entre eux sont des similitudes qu'ils ont découvertes au fur et à mesure, qui se sont, Sontag aimait les listes, les notations, on le voit dans ses journaux, Barthes aussi, est-ce que c'est des choses dont ils se sont rendus compte après coup, ou vraiment Sontag a élevé au rang d'idole Barthes?
Oui, l'influence est plus dans ce sens. Lors de la première émission, vous avez lu le j'aime pas. Bon, c'est Barthes qui l'a fait dans Roland Barthes par Roland Barthes. Donc là, il y a une citation, une reprise, un hommage direct, hein, puisque elle prend le même modèle et puis elle change ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas. Donc il y a de la citation, il y a de l'influence très nette. Je pense qu'elle avait conscience d'être très proche de lui. Je ne suis pas certaine que lui ait eu conscience d'être très proche d'elle.
Une dernière question, Tiphaine Samoyo. Qu'est-ce qu'on peut garder de Suzanne Sontag aujourd'hui quand on est un lecteur, quand on est une lectrice, peut-être des thèses, des mots qu'elle propose dans Contre l'interprétation, peut-être une manière de lire, une sorte d'attention. Qu'est-ce qu'on peut garder d'elle quand on est lecteur?
Pour le dire avec les mots de Barthes, je dirais une certaine neutralité, c'est-à-dire il s'agit pas d'être neutre, mais de ne se laisser enfermer dans rien. Et donc même pas dans certains pièges autoritaires du langage qui fixeraient une doctrine. Donc elle ne veut être soumise à aucune catégorie de genre, mais aucune catégorie sociale non plus. Et donc il faut pas prendre trop au sérieux certains de ses énoncés, c'est-à-dire qu'ils peuvent peuvent, et chez Barthes c'est pareil, ils peuvent se retourner ou basculer. Il faut, il faut toujours être en alerte et je dirais se sentir, essayer de se sentir libre, ce qui n'est pas évident avec le langage. Le langage enferme beaucoup, Barthes en avait beaucoup conscience. Suzanne Dodnack peut-être un peu moins, mais sa manière d'aller d'un genre à l'autre, d'un mode d'écriture à l'autre, d'une forme d'art à une autre, d'un sujet à l'autre, est une façon de s'échapper, elle aussi de fuir.
Merci beaucoup Tiffaine Samoyo. Alors, je rappelle qu'on peut lire de vous la biographie de Barthes, c'est aux éditions Seuil, et on peut lire de vous Traduction et violence, c'est paru au Seuil cette année, merci beaucoup. Et je rappelle que la plupart des œuvres de Sontag sont disponibles en français aux éditions Christian Bourgois. Un grand merci à Anaïs Isbert, Marie-Laure Ciboulet à la réalisation et Sylvain Latu à la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite d'Avoir raison avec Suzanne Sontag.